Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Alors juste un petit mot avant l'émission d'aujourd'hui avec Emmanuel Kiva, le directeur de l'agence Innovation Défense, pour vous préciser donc le planning en quelque sorte de cette fin d'année, de ce début d'été, puisqu'on va s'interrompre évidemment pour la pause estivale, comme c'est toujours le cas pour le collimateur, on s'arrête en général mi ou fin juillet, ça va encore être le cas. Donc avant-dernier épisode régulier en quelque sorte aujourd'hui. A priori, hein, peut-être je rajouterai des épisodes à la dernière minute comme ça arrive parfois, mais a priori c'est quand même comme ça que ça va se passer. Donc aujourd'hui, émission avec Emmanuel Kiva. Pas d'émission ce vendredi, pas de format court, mais jeudi, je rappelle qu'on va faire un exercice un peu extraordinaire, un peu nouveau pour le collimateur, qui est qu'on va essayer de commenter en direct sur Twitter Space, donc en audio, mais sur Twitter, le défilé du 14 juillet. On va faire ça avec un certain nombre de collègues, d'amis, d'habitués du podcast, pour avoir essayé d'avoir une alternative peut-être un peu plus détendue, un peu plus blagueuse à ce qui se fait sur les grandes chaînes de télévision. Donc ça, c'est ce jeudi. Mardi prochain, dernier épisode qui sera avec le GECOS, le général commandant les opérations spéciales, donc tout ce qui est approche indirecte, action de forces spéciales, qui va nous parler du COS et puis d'une manière générale de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut faire avec les opérations spéciales à l'heure actuelle. Et tout de suite donc, l'émission consacrée au retour d'expérience de la guerre en Ukraine, puis d'une manière générale de ce que la guerre en Ukraine a modifié aux perspectives sur capacitaires d'armement, de technologie, d'équipement dans les armées, notamment pour les armées françaises, avec Emmanuel Kiva, le directeur de l'AID. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui pour parler encore de la guerre d'Ukraine, mais cette fois sous l'angle des équipements, de l'armement et de l'innovation, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Emmanuel Kiva, directeur de l'agence Innovation Défense du ministère des Armées. Les auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez déjà venu dans le podcast il y a des années maintenant, pour parler de votre parcours un peu, et de l'époque où vous produisiez des jeux vidéo, j'avais eu beaucoup de plaisir à vous faire parler de ça, et puis surtout de l'AID, de ce que vous y faites désormais avec vos équipes. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans Le Collimateur.
Bonjour, merci.
Je vais rappeler aussi que cette émission s'insère dans une série consacrée au rétexte en quelque sorte de la guerre en Ukraine, qu'on cherche à analyser un peu par tous les angles possibles et à voir ce qu'elle nous apprend, ou ce qu'elle nous apprend pas aussi d'ailleurs, sur les évolutions de la guerre contemporaine et dans quelle mesure c'est transposable ou pas au contexte et aux problématiques françaises. Et ici, il va donc s'agir des équipements et des technologies qu'on voit apparaître sur le champ de bataille, de la manière dont ils sont produits, modifiés, adaptés, de ce qui apparaît donc efficace et de ce qu'il semble moins, ainsi que des leçons qu'on peut en tirer pour peut-être alimenter la réflexion qui doit avoir lieu à l'AID, j'imagine en tout cas, en ce moment. Donc AID, dont on peut rappeler que le rôle est d'imaginer les conflits de demain et d'en tirer des propositions et des solutions concrètes, des projets concrets à destination des armées françaises. Alors j'aurais aimé commencer par une première question assez généraliste, Emmanuel Kiva, mais c'est celle que je pose souvent à des responsables quand ils passent par ce micro. C'est-à-dire, quand l'invasion russe de l'Ukraine a été déclenchée le 24 février dernier, quelle a été votre réaction? Alors évidemment, il y a la surprise relative qu'on a tous eue, mais au-delà de ça, dans ce que vous avez observé sur la forme, la nature de ces opérations, peut-être sur les matériels utilisés aussi, qu'est-ce que ça vous a inspiré sur le moment?
Alors effectivement, vous parlez de surprise relative, je pense que c'est le bon terme, puisque beaucoup de personnes parlent de surprise stratégique, ça fait quand même quelques mois, voire quelques années qu'on s'attendait à au déclenchement d'un tel conflit. Alors moi, il m'appartient évidemment pas de commenter les aspects ni tactiques, ni géostratégiques. Nos officiers, l'état-major, sait beaucoup mieux le faire que moi. En revanche, c'est vrai qu'on a été assez attentif à regarder la réalité des opérations sur le champ de bataille, la nature des équipements, et ce qui nous a frappé, c'est une dissymétrie déjà entre, on va dire, une certaine agilité du côté ukrainien et finalement une offensive et une guerre assez classique, notamment du côté des équipements, du côté russe.
Bah justement, ouais, est-ce que ça vous est apparu? En fait, c'est la question du degré de modernité de cette guerre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des nouveautés radicales? Parce que sous certains aspects, ça a eu l'air d'être un peu un retour en arrière aussi, c'est-à-dire bon, bah, des gros chars de bataille qui pénètrent dans un pays un peu sur le mode de Tempête Rouge de Tom Clancy, auquel on fait souvent référence en ce moment. D'un autre côté, il y avait un côté très agile, très nouvelle technologie, etc. Donc est-ce que ça vous a paru une nouveauté radicale par rapport aux conflits les plus récents, ou est-ce que bon, il y avait une sorte d'équation que vous subodoriez déjà, peut-être avec le Haut-Karabagh de l'année passée, etc.
Alors c'est vrai que d'abord, si on regarde l'utilisation de différents types de matériel, notamment les drones, j'imagine qu'on pourra y revenir sur le terrain. Le Haut-Karabakh nous a montré qu'il y avait un certain nombre de nouvelles technologies, nouveaux modes d'action qui étaient utilisés. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on pensait qu'en face de cela, on aurait les équipements les plus modernes, le T-14 Armata, toutes les annonces finalement qui ont été faites pendant des années sur la modernité et la dominance des forces russes.
Le T-14 Armata, je vais le préciser, c'est le fleuron c'est le dernier char de bataille russe qui est très très high-tech, etc., qui est vraiment deux générations après tout ce qu'on a vu sur le terrain, aussi bien les T-55, les T-64 que les T-72. Et ben, on l'a pas tellement revu, je suis même pas sûr qu'on soit certain qu'il y en ait eu un qui ait été engagé.
Ah, je ne sais pas, mais pour notre part, non, on pense qu'on ne l'a pas vu. En revanche, effectivement, on a vu beaucoup de chars classiques. Et puis finalement, on est revenu à une guerre de haute intensité, ce qui est un petit peu nouveau dans les guerres auxquelles on assiste aujourd'hui. Guerre de haute intensité avec finalement des approches très très classiques du côté russe, entre les colonnes de chars, le recours à l'artillerie, le recours aux frappes aériennes, mais finalement pas de nouveautés technologiques du côté de l'agresseur, si j'ose dire. Du côté ukrainien, en revanche, oui, on a observé pas mal de choses. L'utilisation des drones et l'utilisation ingénieuse et détournement des drones pour devenir finalement le troisième œil et guider notamment les frappes d'artillerie. Le fait, on pourra là aussi en reparler, d'être très conscient des enjeux du C2, donc du command and control, c'est-à-dire de la mise en réseau des différents équipements. Également, quelques avancées, quelques utilisations réelles finalement des deux côtés dans le domaine de la désinformation et de la guerre cognitive.
Mais ça pose la question de la place de la technologie dans cette guerre, dans les opérations et dans ce qui fait les déterminants stratégiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est une guerre qui vous est apparue moderne dans l'ensemble et dans ce qui fait la différence sur le terrain, ou au contraire une guerre des affrontements plutôt classiques où sont des grandes constantes, des grandes invariantes, la masse, la capacité à tenir le terrain, etc., qui donne l'avantage tactique ou stratégique à un moment donné?
Finalement, on se rend compte que c'est une guerre plutôt classique, finalement, avec recours excessif, je dirais, à l'artillerie, selon la doctrine russe, mais avec quelques petits focus, quelques petites injections, notamment du côté ukrainien, et avec un rapport de force qui est relativement équilibré, il ne faut pas oublier ça. Donc, vous parliez de Tom Clancy et de Tempête Rouge, on n'a pas eu la déferlante. Et on n'a pas eu la déferlante parce que il y avait des équipements des deux côtés, il y a des hommes des deux côtés, ce qui est d'ailleurs tragique. Et puis, il y a des équipements, des innovations. Vous savez, aujourd'hui, il y a des bébés en Ukraine qui s'appellent Javelina. Et ça nous a fait réfléchir. Ça nous a fait réfléchir parce qu'on se dit si c'est devenu à tel point un nom commun, c'est qu'il doit y avoir là aussi une facilité d'emploi d'un certain nombre de ces équipements qui doit nous interroger, nous, en tant que responsables de la préparation de l'avenir. Et donc ça nous a amené à rentrer dans une réflexion très, très pratique et très, très actuelle sur, effectivement, vous l'avez dit, la masse versus l'hypersophistication, mais également la facilité d'emploi et le coût. Et ça, ce sont des choses qu'on est en train d'analyser et sur lesquelles on a déjà commencé à travailler et à produire un certain nombre de modifications par rapport aux appels d'offres et appels à projets qu'on pouvait réaliser jusqu'à maintenant.
Et justement, c'était la question que j'allais vous poser, c'est comment est-ce que ça vous a frappé, interrogé, même dans la perspective de ce que vous faites au quotidien ou de ce que vous faisiez au quotidien, c'est-à-dire, bon, bah, on sait que les armées françaises... Alors, ça fait des mois, voire des années qu'on parle du retour à la haute intensité, mais surtout, on en parlait jusqu'en février, jusqu'en début d'année. On était dans un modèle surtout expéditionnaire, la capacité à faire des guerres asymétriques, etc., notamment à l'étranger. Bon, comment est-ce que ce fait que la guerre d'une haute intensité est quand même pas très très loin et on peut assez bien imaginer une version où on se retrouvera dedans, comment est-ce que ça vous a interrogé sur ce que vous faisiez à ce moment-là ? Est-ce que vous avez dû réorienter en quelque sorte vos objectifs ou est-ce que vous aviez déjà commencé à prendre ce tournant ?
Alors, on avait évidemment déjà commencé à réfléchir et je rappelle que on fait pas uniquement de l'expéditionnaire ou uniquement de la haute intensité. Donc dans le milliard d'euros qui est dédié à la préparation de l'avenir, il faut évidemment regarder notre modèle d'armée complet, l'ensemble complet des missions qu'elle devra assurer. Est-ce que ça nous a réorienté ? Non. En revanche, ça nous a amené à accélérer dans un certain nombre de voies. La première étant ce que j'étais en train de mentionner, à savoir, on sait très bien faire des armes hyper sophistiquées. Hein, donc le SCAF, l'ensemble de nos systèmes, finalement, sont des systèmes très sophistiqués. Il y a aussi besoin de pouvoir faire des armes des systèmes qui soient produits en masse, qui soient à faible coût, qui soient faciles d'emploi, qui soient faciles du point de vue de la formation. Par contre, je n'oppose pas technologique et masse. J'oppose hyper sophistication qui évidemment induit des coûts particuliers et rusticité, c'est-à-dire qu'on doit être capable de faire les deux. Et c'est là-dessus qu'on a été amené à accélérer sur notamment les appels et la conception de systèmes qui doivent être plus simples d'emploi et complémentaires au système classique. On n'est pas obligé toujours d'utiliser un MMP pour neutraliser une cible. Et c'est là-dessus qu'on a été amené à accélérer, mais c'est pas véritablement...
MMP, donc, missile de moyenne portée.
Pardon. Vous savez que le ministère des Armées est le champion du monde des acronymes. On a même des acronymes d'acronymes. Donc,
il n'y a pas que le ministère. Les armées plus générales.
Voilà, je vais essayer de m'employer à les développer, en tout cas à chaque fois. Et puis, on voit bien aussi autre chose, c'est qu'on a développer des équipements, il faut une doctrine qui va avec. Et d'ailleurs, à cet égard, on travaille avec donc le CICDE, le centre qui s'intéresse à la doctrine et à l'enseignement, ainsi que le CDEC, centre de la doctrine et l'enseignement du commandement, qui nous aide finalement à mettre en place d'abord un retour d'expérience vis-à-vis de ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, et puis surtout à l'avenir, de concevoir les systèmes de manière parallèle, c'est-à-dire de regarder à la fois le système lui-même, l'innovation technologique et la manière qu'on aura de s'en servir, de l'acquérir, et d'ailleurs de financer ses coûts d'acquisition. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va regarder de près.
Mais d'ailleurs, justement, sur ce processus, est-ce que vous avez un feedback, une remontée d'expérience de ce qui se passe en Ukraine, peut-être de la part des Ukrainiens, je veux dire, on leur envoie quand même beaucoup de matériel, est-ce qu'ils nous disent comment ils s'en servent, ou est-ce que quelqu'un est là pour observer, c'est-à-dire, parce que en même temps, c'est proche, c'est loin, c'est des alliés, ça ne l'est pas vraiment, c'est compliqué, et en même temps, on mesure que ce qui est en train de se jouer à l'est de l'Europe aujourd'hui, ça indique des choses déterminantes sur les conflits à venir, donc dans quelle mesure est-ce qu'on réussit à avoir un feedback sur ce qui se passe ?
Alors, on a un feedback, par contre, vous arrivez beaucoup trop tôt, puisque dans quelques jours, justement, on a une séance de travail avec le centre de doctrine d'enseignement du commandement pour partager, et donc je n'ai pas les informations, à l'heure où je vous parle, sur les remontées directes du terrain. En revanche, tout ce qu'on peut observer à la fois dans l'adaptation des alliés à cette situation, dans l'utilisation qui est faite par les Ukrainiens des systèmes qui leur sont confiés, ça effectivement, oui, on a du retour. On a bien vu par exemple qu'aujourd'hui, l'utilisation des frappes d'artillerie par les différents équipements qui ont été confiés aux Ukrainiens, finalement se fait en utilisant des techniques qui relèvent plus de l'Internet que du command and control classique, ce qui est normal. On voit également que du côté allié, il y a une accélération de programmes pour pouvoir très vite confier aux Ukrainiens des systèmes. Je pense par exemple au Phoenix Ghost, hein, qui est paru dans la presse, qui est un mini-drone qui a été développé en un temps record et qui est suffisant finalement pour permettre aux Ukrainiens d'avoir cette capacité de renseignement, cette capacité de localisation des objectifs et cette simplicité d'emploi et d'acquisition.
Alors, justement, si on essaye d'entrer maintenant un peu dans le détail de ce qui marche, ce qui ne marche pas, et des innovations les plus radicales, ça, par ailleurs, c'est ce qui est intéressant toujours avec la notion d'innovation, c'est que ça se situe à l'intersection des matériels et des usages. Je veux dire, on pourrait tout à fait imaginer des utilisations très innovantes de chars T-64, même si c'est pas forcément ce qu'on a vu. Il n'y a pas que de l'invention, il n'y a pas que des trucs flambant neufs, il y a aussi des nouvelles manières d'utiliser des choses qu'on a déjà. Mais du coup, qu'est-ce qui a retenu peut-être le plus votre attention comme innovation sur le terrain de cette guerre? Vous avez déjà fait référence à plusieurs reprises, j'imagine que les drones ont beaucoup focalisé leur attention, donc on peut peut-être commencer par là. Qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a intéressé sur la manière dont les drones ont été utilisés en Ukraine?
D'abord, en Ukraine, je pense que l'utilisation des drones du côté ukrainien était une bonne idée compte tenu, en tout cas au début de l'offensive, de la doctrine russe qui consistait à envoyer des colonnes de chars. Et c'est vrai que si on arrive à bien localiser le début de la colonne, mais finalement, comme tout ceci n'était pas très manœuvrant, ça a permis de stopper un certain nombre d'offensives.
Juste là, les drones dont on parle,
on a mini-drones, micro-drones, mais aussi...
On a beaucoup parlé des Bayraktar, qui a beaucoup...
Bayraktar, oui, bien sûr.
On a fait des chansons aussi. Je ne sais pas s'il y a des petits Bayraktar qui sont nés en Ukraine aussi, après les Javelina. Mais enfin, en tout cas, ça a beaucoup focalisé l'attention. Est-ce que c'est ça, l'équipement qui a fait la différence, ou est-ce que c'est vraiment toute la gamme?
Je pense que c'est toute la gamme. Oublions pas d'ailleurs que ce drone dont on vient de parler, il a mis quand même 9 ans à être développé par les industriels turcs. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui apparaît pas d'un coup. Alors en revanche, je peux vous dire qu'on a une réaction immédiate qui a consisté à, je vous l'ai dit, accélérer. On avait déjà dans l'idée de lancer un certain nombre de sujets autour des munitions rôdeuses. Donc les munitions rôdeuses sont des munitions qui vont être capables d'être envoyés de manière autonome dans une, ce qu'on appelle une killbox quelque part, c'est-à-dire de trouver leur cible, mais de manœuvrer pour pouvoir la trouver sans forcément... en conservant la capacité en tout cas de s'adapter au dernier moment. Donc munitions rôdeuses, munitions téléopérées ou bien drones, on voit tout l'intérêt, et notamment l'intérêt pour neutraliser une menace au sol et une menace blindée en particulier. Et donc on a lancé deux appels à projets, l'un qui s'appelle Colibri, et l'autre qui s'appelle Larinae. Alors Colibri, tout le monde connaît l'oiseau, Larinae, c'est aussi un oiseau, la famille des goélands. Le but étant...
Donc on mesure qu'il est un peu plus explosif que le premier.
Alors, effectivement, le Colibri aura pour vocation de neutraliser une menace blindée dans une zone de contact, c'est-à-dire à peu près 5 km, avec une autonomie relative sur zone, hein, une trentaine de minutes, alors que Larinae, on parle plutôt de 50 km, là aussi avec une autonomie un peu plus importante sur zone de l'heure. Mais on a voulu aller vite. Donc pour aller vite, on s'est dit, finalement, on va pas faire comme d'habitude, on va pas faire un cahier des charges techniques particulières, 2000 pages, en expliquant exactement le système qu'on voulait. On a expliqué qu'on voulait la capacité à produire ces effets-là. On a expliqué qu'on voulait un coût d'acquisition et coût de mise en œuvre maîtrisé. Donc on a donné les chiffres dans la page, ils me sont sortis de l'esprit, mais c'est tout à fait trouvable sur le site du ministère. Et on n'a pas spécifié le système. Et donc, ça peut être, je ne sais pas, un Cessna, un drone, une meute de drone, une munition. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que on veut aller vite. Donc, aujourd'hui, au jour où on enregistre cette émission, bien, c'est la remise des offres qui vont être dépouillées très rapidement, puisque bien, c'est entre 9 et 12 mois pour Colibri et 12 et 18 mois pour l'Arinae que l'on veut voir une première démonstration opérationnelle. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez novateur. L'innovation, elle n'est pas que dans la technologie, elle est aussi dans les processus de consultation, les processus d'appel d'offres et les processus d'achat. Ben là, on veut aller vite, on veut aller même très très vite pour pouvoir, parce qu'on sait que de toute manière, nos industriels ont la capacité créative de nous proposer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc on leur fait confiance.
Mais alors ça, puisque vous en parlez, ça a été un reproche courant, enfin... Presque le reproche le plus courant sur les capacités des armées françaises de ces derniers mois, c'est le fait de ne pas avoir développé, enfin de ne pas avoir déjà ces choses-là dans l'éventail. Bon, on a beaucoup parlé à tel moment des retards français sur les drones, etc. Mais au-delà de ça, le fait est que ces systèmes, on veut les développer maintenant, c'est qu'ils n'existent pas encore. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que vous expliquez que c'était peut-être pas simplement dans l'équation capacitaire française il y a 12 ou 18 ou 18 mois ou 2 ans? Ou peut-être que, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un angle mort en quelque sorte, où on n'a pas forcément compris l'importance de ce type d'équipement à temps par rapport à d'autres puissances? Enfin, les Américains sont dessus depuis un certain temps, les Turcs aussi évidemment, etc.
Vous savez, il y a toujours une difficulté à se dire, on doit préparer l'avenir, donc on doit concevoir l'ensemble des capacités du spectre, et elles sont très nombreuses, en même temps équiper des armées, ne pas avoir d'angle mort. Donc c'est une question de curseur en fait. Il est vrai que la guerre en Ukraine nous a amené à pousser les curseurs assez loin sur ce type de système. Mais pour autant, on peut pas se permettre d'abandonner le système de combat aérien du futur, le char du futur, le porte-avions nouvelle génération. Donc c'est une question de curseur. Évidemment, il y a quelques années, oui, on a mis du temps à avoir des drones, on a mis du temps à avoir des drones armés. Il m'appartient pas de commenter le passé. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le processus d'orientation, qui est le processus d'orientation globale de l'innovation, et qui va d'ailleurs, j'en profite, va faire l'objet du nouveau DROIS. Le DROIS, c'est le document de référence d'orientation d'innovation de défense, qui va sortir dans les semaines qui viennent. On est en phase de relecture finale.
Celui-là pour le coup.
Écoutez, on l'avait appelé document d'orientation d'innovation de défense. Ça faisait DOID, il n'y a pas une personne qui s'en souvenait. On met en référence, ça fait DROID. Donc chaque année, on a soit le DROID dans sa version complète, soit le mini DROID, évidemment, dans sa version simplifiée. Aujourd'hui, enfin,
il faudrait y avoir un bon référent acronyme qui trouve des bons jeux de mots.
Alors non, ça c'est nous, ça. Vous savez, on est assez créatifs à l'Agence d'innovation de défense. D'ailleurs, bon courage pour ceux qui trouveront la signification de Colibri et Larinae. Pas sûr. Bien, et donc dans ce processus d'orientation, finalement, on donne toutes nos priorités dans l'ensemble des champs capacitaires, et on a surtout les annexes qui sont, elles, classifiées avec un plan triennal de financement où on bouge les curseurs. On se dit finalement qu'est-ce qu'on peut se permettre d'accélérer, qu'est-ce qu'on peut se permettre de ralentir, qu'est-ce qu'on fait seul, qu'est-ce qu'on fait en coopération. Et 1 milliard d'euros, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme pour faire tout ça. Alors on me dit souvent d'ailleurs, 1 milliard, c'est un chiffre rond. Je réponds 2 ou 3, c'est des chiffres ronds aussi. Hein. Donc tout l'enjeu sera dans la future loi de programmation militaire, d'avoir cet équilibre, et le message, c'est de ne pas sacrifier d'ailleurs la préparation de l'avenir, qui est garante de notre souveraineté, notre autonomie stratégique à long terme, aux urgences des crises que nous vivons aujourd'hui. Parce que si on ne fait que se réorienter en fonction de ce qu'on observe aujourd'hui, bah finalement on préparera la guerre d'avant. Et donc nous, cet équilibre est compliqué à tenir, et c'est pour ça que vous voyez des accélérations de temps en temps en fonction des urgences et des crises, et en revanche des grands programmes qui continuent à se déployer, parce que on doit conserver cet équilibre entre réactivité, adaptation en pivotant vis-à-vis de l'observation des conflits auxquels on serait amené à participer, mais également sans sacrifier notre autonomie stratégique à long terme.
Mais alors, juste pour revenir sur les drones, puisque là vous parlez de projets donc ad hoc, de projets militaires, ce qui est intéressant et ce qui était assez captivant, c'est la labilité, enfin la perméabilité avec le civil, avec des technologies extrêmement courantes que n'importe quel enfant peut manipuler, les petits quadcoptères qu'on trouve dans le commerce à très bas coût pour quelques centaines d'euros, qui ont été utilisés y compris parfois en mettant des gros bâtons, enfin des gros explosifs en dessous pour en faire des munitions rôdeuses ad hoc. Donc comment est-ce que vous voyez ça, disons cette incorporation du civil? Comment dire, est-ce que dans une certaine mesure, les équipements militaires n'ont pas toujours un temps de retard sur le bricolage avec des matériels qu'on trouve dans le civil?
Alors ça, c'est quelque chose auquel on s'est intéressé, mais dès la conception de l'agence, mais d'ailleurs auquel s'intéressent les armées, la DGA, Direction Générale de l'Armement, pour ceux qui nous écoutent, depuis toujours. En fait, on a ce cycle, alors je pense qu'on en avait parlé ensemble peut-être la dernière fois, cette espèce de cycle de Gartner, assez connu dans le monde de l'innovation, où d'abord on a des différentes phases d'une innovation, on a cette surexcitation technologique, si j'ose dire, on va surestimer les capacités d'une technologie nouvelle à court terme. Ça a été l'intelligence artificielle, ça a été la réalité virtuelle. Aujourd'hui, par exemple, c'est les NFT, les non-fungible tokens, qui vont résoudre tous nos problèmes. Bon, on verra avec le métaverse, on verra tout ça. Puis ensuite, on a justement cette deuxième phase qui s'appelle le puits de la désillusion, assez poétique. On se rend compte que finalement, les premiers prototypes, ils répondent pas aux attentes, que la technologie, elle peut pas tout faire. Et on est tenté, d'ailleurs, de l'abandonner. Et donc, c'est une espèce de vallée de la mort qu'il va falloir franchir. Jusqu'à la troisième phase de plateau, ou qu'on appelle une phase de productivité, où les industriels, les entrepreneurs commencent à travailler, et on a véritablement des prototypes des produits qui sont opérationnels. Et donc ça, c'est toutes les innovations, pas militaires, hein, les innovations civiles passent par ces phases-là. Les drones sont passés par là, bien évidemment. Et vous voyez bien la difficulté qu'il y a, que nous devons, nous, ministère des Armées et Agence de l'innovation de défense, anticiper les bons candidats technologiques. Mais on doit aussi se prémunir de leur emploi, puisque une fois qu'ils deviennent disponibles, ils deviennent disponibles à tous, y compris pour nos adversaires. L'utilisation des drones ou de la fabrication additive sur les théâtres d'opération, ça fait 10 ans. Et ça fait effectivement 5 ans qu'on voit apparaître des drones assez sophistiqués, puisqu'ils deviennent de plus en plus sophistiqués dans le civil, avec, vous le disiez, des charges utiles, des explosifs. D'ailleurs, les premières charges, c'était des petites charges sous des ballons, des volets de badminton pour les stabiliser. C'est extrêmement rustique, ça marche aussi très bien. Et donc, on a toujours ce combat glaive-cuirasse qu'on doit conduire. Et d'ailleurs, le problème, c'est que si le drone est une technologie civile duale, donc d'intérêt civil et militaire, la lutte anti-drone, elle est beaucoup moins. Et donc on doit déployer des moyens nous spécifiques, ça nous a amené tout ceci à accélérer dans le domaine de la lutte anti-drone, avec des technologies spécifiques, mais également des combinaisons de technologies permettant de neutraliser les menaces sur les théâtres d'opération. Et par exemple, je pense à un système qui s'appelle ARLAD, qui a été développé par l'armée de terre, notamment le Battle Lab Terre. C'est un système qui utilise, un système de détection et de communication anti-drone qui s'appelle MILAD, couplé avec de l'armement, de telle manière à pouvoir détecter par radar les drones et ensuite les neutraliser par une munition qu'on appelle airburst, c'est-à-dire une munition qui va exploser en l'air et projeter des éclats. Ce qui fonctionne également très bien avec les essaims de drones normalement. Et ça a été développé spécifiquement pour lutter justement contre ces mini et micro drones achetés sur Amazon par des combattants et qui derrière sont adaptés pour des opérations militaires. Donc oui, c'est très concret, mais ça nous impose aussi de à la fois d'anticiper les innovations, et toujours ce qui doit nous empêcher de dormir, c'est que la nouvelle révolution technologique, on la rate et que nos adversaires s'en emparent avant nous, tout en conservant les moyens de lutter contre ces innovations qui sont généralisées dans le monde civil, et leur détournement bien évidemment.
Dernière chose, pour rester encore une seconde sur les drones, c'est, bon, en fait, on parle jamais que des drones aériens, mais un jour ou l'autre, il y aura bien des drones terrestres ou des drones navals qui fonctionneront. Est-ce que, parce que bon, dans une certaine mesure, les drones aériens, ça commence à être bien quadrillé la problématique. Est-ce que là, il y a des pistes, des choses qui vous interrogent, qui vous intéressent sur peut-être essayer de droniser d'autres milieux et d'autres capacités?
Tout à fait. D'ailleurs, on vient de finir un challenge qui s'appelle, toujours avec le Battle of Terre, qui s'appelait COOMA, pour cohabitation homme-machine, coopération homme-machine, pardon, où le but, c'est justement d'avoir différents effecteurs, dont des drones terrestres, Alors, le milieu terrestre est un milieu difficile. C'est un milieu beaucoup plus complexe, et l'armée de l'air et de l'espace ne m'en voudra pas, j'espère, que le milieu aérien. C'est le terrain, évidemment, qui commande, et donc tout ce qui est mouvement de terrain, tout ce qui est différentes textures de terrain également, qui peut gêner, entraver la progression, la discrétion également. C'est effectivement, quand on s'élève assez haut dans les airs, on peut se permettre d'avoir un certain bruit résiduel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, vous aviez Boston Dynamics, la firme américaine, qui avait mis en place un robot qui s'appelait Big Dog auprès des US Marines, qui était capable justement de progresser en tout terrain, de se relever lorsqu'il avait une difficulté, etc. Et finalement, lorsqu'il a été employé, on s'est rendu compte que ce robot faisait beaucoup trop de bruit, hein, en gros le bruit d'une tondeuse à gazon, et que donc c'était totalement antinomique avec le fait de réaliser une mission. Donc on a besoin de progresser, on fait beaucoup de travail, on fait beaucoup de challenges sur ce domaine. Les drones terrestres, les drones navals, avec les grands industriels du naval, mais également avec un certain nombre de start-up, parce que quand on dit naval, on dit sur l'eau, mais on dit aussi sous l'eau. Et donc là aussi, il y a des enjeux sur lesquels on est en train de travailler de manière très active. Et puis, l'utilisation des drones dans des conditions qui sont souvent des conditions de déni d'accès. Par exemple, ce qu'on appelle les drones indoor, le fait d'explorer. On voit bien que la guerre se transforme de plus en plus en combat urbain. Dans un combat urbain, ça ne sert pas à grand-chose d'envoyer un drone à 1000 pieds au-dessus d'une ville. Il va falloir explorer des rues, il va falloir explorer des bâtiments. Il va falloir le faire en toute discrétion. C'est compliqué de piloter un drone, donc il faut de l'intelligence artificielle à bord pour nous permettre de rentrer dans une maison, d'éviter les collisions, lorsque la connexion est perdue, soit de poursuivre la mission de manière autonome, soit de revenir au point de départ. Donc tout ceci, on y travaille. Ce ne sont pas des problèmes technologiques faciles, mais effectivement, vous avez un décalage entre tout ce qui s'est développé dans le domaine de l'aérien, plus facile à mettre en œuvre, et puis les deux autres milieux qui sont moins permissifs aux drones, si j'ose dire.
Bien, enfin, dernière question là-dessus, est-ce que vous réfléchissez aussi, parce que c'est plus compliqué qu'on croit d'implémenter ça dans une unité, notamment une unité de l'armée de terre, parce que en fait c'est tout bête, mais quand quelqu'un pilote un drone, il fait pas autre chose, ce qui dans une section d'infanterie ou dans un groupe de combat, etc. Bah, en fait, on finit par disperser un peu. Plus on dronise, plus on met de machines qu'il faut gérer en temps réel. Plus on diminue aussi potentiellement la capacité de combat et de choc d'une unité, c'est-à-dire où quelles sont les limites, si tant est qu'il y en a, à quel point est-ce qu'il faut repenser peut-être les modèles de force, la taille des groupes, pour être capable d'intégrer toute cette technologie sans pour autant perdre ce qui fait, en l'occurrence je pense à une section d'infanterie, mais ça pourrait être autre chose, ce qui fait sa force.
Bah justement, de l'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, de travailler en même temps, la doctrine d'emploi, le retour d'expérience sur le terrain et le développement technologique. Il y a quelques mois, on a lancé une expérimentation qui s'appelait Robopex, qui faisait suite à une expérimentation qui avait eu lieu au centre d'entraînement au combat en zone urbaine, au Sensu, à Sissonne. Et on a envoyé des robots-mules, un modèle de robot-mules dont on ne savait pas si c'était le bon ou pas, hein, ça n'avait aucune importance, en opération au Mali.
C'est-à-dire qu'ils portent des paquets.
Voilà, qui normalement portent des munitions, portent des charges lourdes, etc. Sauf que, d'abord, on voulait savoir si c'était adapté ou pas. Est-ce que c'est le bon robot? Est-ce que c'est un robot de 3 kilos, de 3 tonnes qu'il faut? Je sais pas. Je suis pas dans l'infanterie. Donc, en l'occurrence, c'était effectivement des fantassins. Est-ce que l'autonomie était bonne? Est-ce que la discrétion était bonne? Est-ce qu'on devait s'en, comme vous le dites très justement, est-ce qu'on doit s'en occuper de manière constante et donc neutraliser un opérateur à cette fin-là? Et puis, est-ce que finalement, il n'y a pas des détournements d'usage? Et donc, c'est ça auquel on a essayé de répondre. Effectivement, les premiers retours d'expérience nous laissent à penser que le modèle de robot qu'on a envoyé n'était sans doute pas exactement le bon, que les utilisateurs qui sont quand même très... imaginatifs sur le terrain, puisque eux, ils sont au contact des choses, il faut leur laisser justement la liberté de pouvoir utiliser, imaginer de nouveaux usages sur ces robots et donc des architectures qui le permettent. Et donc cette réflexion autour de la robotisation des armées, d'abord, elle est inéluctable, hein, la robotisation, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et donc il faut l'avoir, mais il faut l'avoir en même temps que l'on conçoit les systèmes. Il ne faut pas trop se hâter de se dire la cible pour l'armée de terre, c'est un robot qui est comme ça, sans avoir fait ce retour d'expérience au préalable. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лапти посьорбати довбаніші, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Байрактар, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зі сходу примкались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Байрактар, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Байрактар, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар.
Alors, pour revenir peut-être un peu sur la guerre d'Ukraine et pour sortir un peu des drones, alors il y a plein d'autres innovations. Une de celles qui a peut-être beaucoup retenu l'attention, c'est tout ce qui concerne, disons, la numérisation de l'espace et de bataille et du renseignement, mais qui est une numérisation extrêmement décentralisée, avec un certain nombre d'outils assez innovants, notamment en ce qui concerne l'artillerie. Il y a ce qu'on a appelé le GIS Art for Artillery, qui est une sorte d'interface pour smartphone, où tous les opérateurs peuvent se connecter sur une application et demander demander un appui-feu, qui du coup arrive en boucle extrêmement courte, extrêmement rapidement par rapport à ce qui se fait dans les armées occidentales. Je sais pas, ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cet outil-là ?
Cet outil, il est intéressant parce qu'il permet de survivre finalement dans un milieu où on doit agir vite et avec une armée qui n'était pas dotée des équivalents que nous pouvons avoir, nous, dans nos forces armées. Hein. Les systèmes d'information de commandement, qu'il s'agisse de l'artillerie, qu'il s'agisse de l'ensemble de la numérisation de l'espace de bataille, il n'y a pas beaucoup d'armées dans le monde qui le maîtrisent, finalement. Et donc, quand on est l'armée ukrainienne, et qu'on doit coordonner un certain nombre de choses, on s'adapte. Moi, je pense, mais je peux me tromper, que cette application, elle avait été développée auparavant. Les Ukrainiens sont des excellents développeurs informatiques. Et effectivement, ils ont dû soit accélérer la mise en service de cette application-là. Mais finalement, c'est rien que de très naturel, avec quand même un certain nombre de questions autour de la robustesse, autour de la dépendance, notamment à des connexions satellitaires, j'allais dire grand public, à des réseaux qui doivent être maillés, mais pas par des moyens militaires. Donc pour nous, c'est intéressant de voir ces capacités d'adaptation, mais surtout ça illustre bien la nécessité d'avoir ce type d'outil sans qui finalement c'est extrêmement complexe de combattre aujourd'hui. Et donc cette nécessité de coordonner les efforts, de partager les positions, de faire ce qu'on appelle du blue force tracking, de faire de la désignation d'objectifs. Et finalement, l'importance, cette opération en Ukraine, cette guerre, elle montre toute l'importance du combat collaboratif connecté, puisque quand on n'a pas les systèmes sophistiqués que les armées modernes peuvent avoir, eh bien, on a quand même besoin d'avoir un combat collaboratif connecté.
Mais justement, puisque vous en parlez, ça, on en parle de temps en temps, mais c'est compliqué parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mais c'est toute l'importance de Starlink. c'est-à-dire de cette espèce de myriade de satellites que Elon Musk a apparemment déployés au-dessus de l'Ukraine pour assurer une permanence de la connexion Internet, qui, bon, par ailleurs, a en fait détourné les Russes de taper les tours de communication, parce qu'ils ont compris que ça servait pas à grand-chose. Mais, d'une manière générale, c'est le fait que tout ça, toutes ces innovations, reposent sur une sous-couche civile d'infrastructures de communication, qui, là, c'est un opérateur privé qui, apparemment, a fait une assez grosse différence dans le maintien des capacités ukrainiennes. Mais ce qui implique aussi une dépendance, parce qu'il aurait pu ne pas le faire, probablement. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce fait-là?
Ben d'abord, ça illustre le fait que vous n'avez plus une seule opération qui soit dans un seul milieu. On connaissait terre-mer, vous voyez qu'on rajoute immédiatement l'espace, et notamment l'espace orbite basse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le new space, dans les paramètres à prendre en compte. Alors là aussi, distinguons les capacités des armées modernes avec des satellites de communication militaire, avec des satellites d'observation qui sont assez prodigieux d'ailleurs, je pense à CSO 1 et CSO 2, qui confèrent un avantage aux armées qui en sont équipées. Quand on n'est pas équipé, on regarde la manière dont on peut tirer parti du dual, et donc des opérateurs civils. Donc ça induit une forme de dépendance, ça donne aussi de l'opportunité. Il est vrai que des sociétés comme celle d'Elon Musk ont des moyens considérables, à la fois en termes d'opérations, de production et de R&D. J'aime toujours citer les chiffres, hein, le budget de recherche hein, et technologie de sociétés comme Huawei, ça dépasse la vingtaine de milliards de dollars par an. C'est plus que le budget de la défense d'Israël. Donc évidemment, avec ça arrivent des capacités assez uniques, assez énormes. Ensuite, elles sont dans les mains d'acteurs qui sont soit liés à des États, soit un petit peu transnationaux et qui transcendent des États comme cette société-là. Donc ça nous a pas étonné finalement. Ensuite, il faut se rendre compte aussi des vulnérabilités de ces systèmes-là, qui justement ne sont pas des systèmes militaires et qui aujourd'hui reposent sur la bonne volonté d'opérateurs civils. Ils n'ont pas forcément la même résilience. Ou en tout cas, ne se fait pas de la même manière que nos systèmes de communication militaire.
Alors, au-delà, donc, on a parlé des drones, on a parlé de la numérisation de l'espace de bataille et du combat collaboratif. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont particulièrement, enfin, d'autres innovations, d'autres objets ou d'autres systèmes qui ont particulièrement retenu votre attention?
Alors, je parlais pas d'objets et de systèmes, je parlais de la multiplication des champs de conflictualité. Terre-air-mer, espace, fond des mers, bien. Il y a un champ, donc on connaissait bien ce qu'on appelle dans les champs immatériels, il y avait le cyber, mais il y a maintenant systématiquement un autre champ qui est celui de ce qu'on pourrait appeler la guerre cognitive. Si vous vous souvenez, dans les premiers jours de l'invasion, vous avez vu apparaître sur les télévisions ukrainiennes le visage du président Zelensky appelant à déposer les armes. Alors c'est ce qu'on appelle un deepfake. Un deepfake, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir finalement animer une marionnette numérique qui ressemble en tout point à la personne que l'on veut faire parler. Et ce que vous voyez, vous le croyez. Et le faire apparaître sur des écrans. Donc c'est une combinaison d'attaques cyber qui a permis de hacker finalement les réseaux de télévision nationaux ukrainiens, avec la diffusion d'un deepfake qui fort heureusement était très très mal fait et donc facilement détectable. Maintenant, cette technologie, elle gagne beaucoup aujourd'hui en maturité, et il devient possible de faire des deepfakes qui sont beaucoup moins faciles à identifier. Et ça nous a conforté dans l'idée que le sujet de la guerre cognitive, comment influencer les émotions, les perceptions, les croyances, les opinions, comment lutter contre la manipulation de ces informations-là ou la manipulation de la cognition elle-même, ça devenait une priorité. Alors on part pas de rien, hein. Ça c'est quelque chose qu'on suit depuis quelques années, notamment, vous savez qu'il y a au SGDSN, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, une entité qui est chargée de lutter contre la manipulation d'informations, qui...
Viginum.
Viginum, absolument, qui, je le dis à titre personnel, je pense que c'est un énorme danger pour les démocraties.
Pas Viginium, la manipulation.
La manipulation de l'information, oui. Effectivement, il faut être bien de préciser, j'aurais des problèmes. Donc il fallait s'emparer du sujet. On a été confortés aussi, vous savez, on en avait parlé la dernière fois, on a lancé ce projet avec nos auteurs de science-fiction qui s'appelle la Red Team, qui nous aide à penser très loin dans l'avenir, et puis d'essayer d'anticiper la surprise stratégique et de revenir aujourd'hui en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour lutter contre ce monde qu'on ne veut pas voir. Et l'un de leurs scénarios, juste avant l'annonce du métaverse par Frank Zuckerberg, mettait en œuvre finalement ce qu'on appelait des bulles de service, c'est-à-dire que chaque citoyen voyait la réalité par le prisme des services qui lui étaient offerts et donc de ses intérêts. Et ça posait la question du partage, on appelait ça la balkanisation du réel, donc du partage de la réalité, sachant que lorsque plus personne ne partage la même réalité, la parole officielle devient inaudible, et donc les consignes militaires aussi. Et ça nous a amené à lancer Myriad. Myriad, c'est un programme qui est malheureusement classifié, donc je ne pourrais pas vous en parler, pour lutter contre la guerre cognitive. C'est un programme qui nous a été inspiré à la fois par ce que l'on voit, ce que l'on a vu dans les élections présidentielles américaines ou autres, dans les manipulations de l'information qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans ce scénario qui était purement prospectif mais qui a touché un point faible. Ça nous a amené à accélérer sur ces sujets-là et à essayer de se doter des moyens de pouvoir anticiper et lutter contre la manipulation d'information. Donc oui, la guerre cognitive, l'Ukraine nous a montré que c'était quelque chose d'extrêmement prégnant et une réelle menace aujourd'hui dans le cadre d'opérations militaires.
Mais c'est intéressant parce que ça pose la question de... Donc tout ça, ça peut évidemment viser à toucher toute une société, toute une population civile, bon, si on passe un truc à la télé, quoi, enfin si on balance un truc à la télé. Mais sur le plan plus directement opératif, ça pose la question de l'accès des militaires eux-mêmes à l'information et de comment est-ce qu'on contrôle ou est-ce qu'on contrôle pas. Je veux dire, ils ont tous des smartphones et on en parlait tout à l'heure avec le GSART for Artillery, c'est aussi la force de certains systèmes que précisément ils partent du fait que tous les militaires ont des smartphones pour développer des systèmes. C'est aussi évidemment une vulnérabilité parce qu'on mesure que du coup il y a des informations potentiellement nuisibles qui peuvent arriver par ce canal-là. Donc est-ce que c'est aussi une réflexion, c'est une espèce de j'allais dire bulle, mais oui peut-être, de bulle sécurisée, de bah voilà, quand il y a des militaires sur le terrain, on essaie de faire en sorte qu'ils n'aillent pas traîner sur TikTok parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on y trouve. Enfin, on a probablement d'autres choses à faire, mais d'une manière générale, on essaye de contrôler un peu, en tout cas, l'écosystème informationnel d'un personnel sur le terrain.
Alors ça, c'est effectivement, c'est pas à l'Agence de l'innovation de défense de mener cette réflexion. En revanche, les armées l'ont déjà prise en compte. Je pense par exemple à la Marine nationale, sur les bâtiments et en opération, vous avez des consignes extrêmement strictes, un peu facilitées par le fait que quand on s'éloigne en mer, mais justement, si vous vous rapprochez d'une côte et que tout le monde se met à utiliser ses smartphones, je peux vous dire que quelqu'un est capable de guider une frappe d'artillerie par Snapchat. Hein. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc oui, ce sont des vulnérabilités.
On parle toujours des dangers de Snapchat, on ne parle jamais assez de celui-là.
Celui-là, oui. Je ne pense pas qu'il soit au courant eux-mêmes. Mais vous avez vu ce qui s'était passé il y a quelques années où les montres connectées de soldats ont permis qui faisaient simplement leur footing autour de bases opérationnelles avancées, ont permis de localiser ces bases-là.
Encore aujourd'hui, ce travail est une vulnérabilité majeure pour plein d'armées dans le monde.
Vous avez une intersection, on en parlait tout à l'heure, entre les technologies civiles et militaires qui imposent une espèce d'hygiène numérique. Donc il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Il y a la réponse de se dire qu'est-ce qu'on fait en termes de consignes opérationnelles pour les unités déployées sur les terrains. Et donc ça, c'est effectivement, les armées y travaillent, la doctrine y travaille également, tout en restant conscient qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir une vie personnelle non plus. Donc il y a un équilibre à trouver. Et il y a aussi tout un travail à faire sur la fiabilité, ou en tout cas pouvoir détecter assez tôt la fiabilité des informations qui sont diffusées, notamment par les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui des technologies qui vous permettent de remonter au réseau d'influence en se disant finalement, ce tweet, un, est-ce qu'il a été émis par un humain, deux, ou bien est-ce qu'il a été émis par une ferme de bots, hein, d'automates qui sont chargés de propager des informations sur Internet. Deux, est-ce qu'il va avoir un impact ou pas? Et ça, on sait aujourd'hui pouvoir anticiper et se prémunir, le cas échéant, de réseaux d'influence dont on connaît les relais principaux et qu'on peut identifier comme tels. Et vous avez vu récemment au Mali qu'il y a une réaction très rapide de la part des armées françaises aux fausses informations qui avaient été diffusées quant à l'enfouissement de corps de soldats par l'armée française, qui était évidemment une fake news, mais qui avait été orchestrée par le groupe Wagner. Voilà, donc on travaille sur l'ensemble de ces aspects-là. C'est extrêmement compliqué. Et vous savez bien que plus on met des contraintes et plus on interdit aux gens de faire des choses, plus évidemment ils vont chercher des moyens de contournement. Et ces moyens de contournement numériques peuvent être une vulnérabilité, d'où la complexité de ce type d'approche.
Alors là, jusqu'à présent, on a parlé de ce qui marchait, des nouveaux outils, des outils innovants, des outils intéressants. Mais bon, un élément intéressant de cette guerre, c'est aussi que c'est évidemment l'épreuve du feu pour tout un tas de matériel, et que bah la guerre, ça passe en quelque sorte les équipements au tamis du principe de réalité. Et il y a plein de choses qui marchent très bien dans un laboratoire ou dans un salon de l'armement, et qui perdent beaucoup de leur utilité sur le champ de bataille, pas forcément parce que ça marche pas d'ailleurs, mais aussi parce que il peut aussi ne pas y en avoir assez, ça peut être trop coûteux pour en déployer assez, pour avoir des effets stratégiques importants. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, à votre avis, qui vous ont surpris de voir sur le terrain? Bah ça, on pensait que c'était des équipements intéressants, et on n'a pas vu vraiment de différence concrète d'un point de vue tactique ou opératif?
Je dirais dans les équipements classiques, non. Enfin, pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, et encore une fois, c'est pas l'Agence d'innovation de défense qui est chargée de cela, mais on travaille avec les entités qui le sont, en tout cas du côté de l'armement, j'allais dire l'armement classique, même si moderne, qui est développé. Je rappelle qu'il y a des structures dans l'ensemble des armées qui permettent de jouer cette épreuve du feu au préalable. Je pense par exemple à la section technique de l'armée de terre, qui est un outil tout à fait performant et qui permet justement de ne pas se retrouver dans des situations où l'épreuve du feu ou la rugosité des terrains mettrait à mal quelque chose qui aurait été conçu par des gentils ingénieurs en blouse blanche.
C'est génial, leur métier c'est de casser vos outils, c'est d'essayer de les casser et de les pousser.
Oui, il y a plusieurs moyens de casser nos outils, c'est assez facile. Il y a certaines unités qui le font très bien d'ailleurs. Mais bien évidemment, il faut une forme de rusticité, de résilience et l'épreuve du terrain, elle est indispensable. Je rappelle aussi que...
Non mais j'y pense, par exemple, on parlait des drones, et vous avez parlé de, notamment les capacités anti-drones, que ce soit les pistolets électromagnétiques anti-drones, etc. Enfin bon, il y a plein de solutions auxquelles on réfléchit depuis quand même quelques années, pas qu'en France, mais évidemment en Russie aussi. Et là, par exemple, on voit que les drones, en tout cas, que ce soit parce que ça coûte beaucoup moins cher que les contre-mesures, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de défense très très efficace face aux drones tels qu'ils sont utilisés sur le théâtre ukrainien, en tout cas à l'heure actuelle.
Alors les Russes commencent à se doter de capacités de défense anti-drone, ce qui montre simplement qu'il faut prendre cette menace en compte dès le début. Mais je ne sais pas répondre à votre question. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché? D'abord parce que, par définition, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, tant que je n'aurais pas fait ce retour d'expérience, je ne pourrais pas vous répondre. Il est prévu dans les jours prochains. Ce qu'on peut voir quand même, c'est...
Je précise qu'on aurait pu faire l'émission après, mais je soupçonne que de toute façon, même une fois que vous aurez fait ce retour d'expérience, ce ne sera pas forcément très partageable tout de suite.
Encore une fois, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, sans doute. Je pense que vous avez raison. Ce que l'on peut dire par contre, c'est qu'on voit une certaine vulnérabilité des systèmes. Par exemple, le rayonnement électromagnétique ou l'empreinte énergétique des centres de commandement permet de les détecter, et que donc la mobilité quelque part, ou le fait de se protéger de ces interférences électromagnétiques est indispensable aujourd'hui, et que dans certains cas les belligérants viennent à remettre des câbles et des fils là où avant il y avait des communications sans fil, parce que les communications sans fil non cryptées, on les intercepte, parce que quelque chose qui consomme beaucoup d'électricité, ça se voit quand on a les moyens de le faire, et puis parce que le rayonnement électromagnétique d'un centre non protégé, comme peuvent l'être certains centres, notamment du côté russe, finalement ça permet de les détecter. Donc importance de la guerre électronique, effectivement, importance des capacités de renseignement et vulnérabilité de certains systèmes lorsqu'ils ne sont pas conçus pour justement être discrets.
Mais alors justement, ça pose la question de... On a vu que ce qui est un des éléments déterminants et qu'il est encore aujourd'hui, c'est la masse. Au-delà des équipements, au-delà de qui possède l'avantage technologique à un moment donné, bah, y a un moment où la quantité pure de matériel, par exemple du côté russe, fait une grande différence, notamment sur la durée, puisque c'est en train de devenir une guerre d'attrition, donc la question des stocks et des matériels, et voilà, et j'allais dire la masse de ferraille, mais il n'y a pas que de la ferraille, mais il y a un peu de ça aussi, fait une différence sur le long terme. Donc une question, c'est évidemment, on ne va pas... les stocks, c'est les stocks, c'est-à-dire on peut pas tout créer, on peut pas se mettre à produire immensément, massivement, très rapidement, mais justement, comment est-ce qu'on peut utiliser l'innovation pour essayer de créer, artificiellement ou pas d'ailleurs, de la masse, en tout cas pour avoir de la masse qui ait des effets sur le terrain, et sans démultiplier les coûts non plus, c'est-à-dire autrement dit, comment est-ce qu'on peut innover pour faire plus, au-delà de faire forcément énormément mieux, quoi.
Alors c'est une question importante, notamment au moment où le président de la République a parlé dans son discours à Eurosatéru de rentrer dans une économie de guerre, donc c'est quelque chose qui ne peut pas se faire seul, et on a besoin de réflexions conjointes, et c'est ce qu'on fait avec les industriels aujourd'hui pour nous permettre de répondre à ces questions-là. Je rappelle au passage que c'est tout la raison d'être de la Direction Générale de l'Armement que de permettre d'avoir ce dialogue continu avec nos industriels, quels qu'ils soient. Et puis on doit s'inspirer de nouvelles pratiques aussi. Comment concevoir de manière plus simple des équipements ou plus rapides, c'est dans les équipements eux-mêmes ou bien c'est dans les processus que ça peut se trouver. Donc on travaille sur les deux. On travaille notamment en identifiant des petites start-up qui sont par nature très agiles, en essayant de travailler dans la même temporalité. Je rappelle que depuis la création de l'agence, c'est à peu près un millier de start-up qu'on ne connaissait pas, hein, qui ont été identifiées, et on en a reçu près d'un tiers, plus d'un tiers d'ailleurs, à l'agence pour discuter avec elles et pour que finalement, quelque part, le ministère des Armées s'adaptent à leur business model et pas l'inverse. Donc il y a cette voie-là qui est de dire il y a des acteurs qui sont très rapides, très innovants, capables de faire des choses sophistiquées mais simples à concevoir ou à produire. On va se rapprocher d'eux, on va essayer de travailler ensemble. On travaille pas seulement avec eux. On oppose souvent les startups, les PME et ce qu'on appelle les grands maîtres d'œuvre de la base industrielle et technologique de défense. Je rappelle qu'on a besoin des deux. Et que si vous construisez une brique technologique, mais que vous avez aucun moyen de la mettre dans un système d'armes parce que c'est trop complexe et que vous n'avez pas travaillé avec l'intégrateur, vous avez un problème. Donc il faut travailler avec les Naval Group, les Dassault, les Nexter, les Safran. Je ne peux pas tous les citer parce que si j'en oublie un, je vais avoir des petits points rouges sur moi. Mais c'est très important d'avoir ce mode de travail-là. Et puis, il y a les nouveaux modes de production, là aussi. On parle de l'usine 4.0, je ne sais plus si on est à 4.0, 5.0. Bon, ce serait temps de passer à notre vocabulaire, mais en tout cas, chaque fois que je visite une usine de production, je suis bluffé par la sophistication des nouvelles techniques, à la fois dans l'emploi de nouveaux matériaux, avec toute la question d'ailleurs de la dépendance aux filières qui sont un moyen de nous empêcher de produire plus et de produire en masse. Et donc comment se passer...
C'est-à-dire l'accès aux matières premières.
L'accès aux matières premières, l'accès aux matériaux rares, etc. Que l'on peut remplacer par d'autres matériaux. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Et puis les processus et les procédés eux-mêmes. C'est pour ça que je rappelle que dans les projets qu'on finance, il n'y a pas que je veux le système à la fin complet. On peut aussi financer des projets qui visent à rendre plus efficient un processus de production, justement pour nous permettre à l'avenir de produire plus en masse. Et ça, on travaille avec les industriels pour mettre au point ces nouvelles technologies.
Justement, vous pensez que c'est ça l'avenir, la solution au problème? Parce que là on, je veux dire,
il n'y a pas une solution.
Non, mais là, on a un problème gigantesque de stock qui est que, enfin, pour tout le monde, mais à part les Américains, globalement, il n'y a pas grand monde qui est capable de suivre le rythme auquel les trucs sont tirés et détruits en Ukraine à l'heure actuelle. Et du coup, c'est toujours compliqué parce qu'on pense en termes de chaîne de montage, enfin, on imagine des usines sur le modèle de la révolution, la seconde révolution industrielle. Et en même temps, on mesure que peut-être il y a un autre moyen d'inventer les choses et de faire pour... Mais est-ce que en même temps, on pourra jamais arriver au même rythme de production? Enfin, je veux dire, les stocks, les matériels qui sont tirés aujourd'hui, ils viennent de ce modèle d'intégration industrielle-là. Est-ce que on pense qu'il y a une manière de se substituer à cette intégration, à ces grandes usines-là? ou est-ce que dans une, on peut améliorer à la marge, mais dans une certaine mesure, on est toujours dépendant de ces grands complexes qui ont, sont tombés un peu en désuétude et, depuis quelques années.
Je ne sais pas répondre à votre question. Ce que je peux dire, c'est que ce problème est pris à bras-le-corps par tous nos industriels de l'armement. Ils en sont très conscients. Qu'ensuite, derrière, vous avez tout un écosystème qui réfléchit à la manière de se renouveler. Là aussi, je ne m'exprimerai pas sur les stocks, hein, ce n'est pas du tout mon périmètre de responsabilité, mais quand on travaille de la manière dont on commence à travailler aujourd'hui, et j'ai évoqué ces deux appels d'offres Colibri et la NAE, c'est là aussi pour ça. C'est 12 à 18 mois pour mettre au point un système from scratch qu'on ne connaît pas, mais dont on sait qu'il va devoir être opérationnel très vite. C'est finalement changer de modèle, quelque part. Donc oui, on est en pleine réflexion sur tous les aspects. Tout l'écosystème de défense, mais aussi l'écosystème industriel, est en train de réfléchir à cela et d'agir, puisqu'il y a un certain nombre d'actions qui sont lancées. Et ça fait partie de l'orientation d'innovation de défense.
Et quand vous pensez à ça, donc, bon, reprenons ces deux types de drones, est-ce que dans le cahier des charges... Parce que j'imagine que c'est possible de produire des prototypes super en 12 à 18 mois, mais qui ensuite ne sont pas forcément faisables à très très grande échelle. C'est-à-dire, est-ce que dès le début, donc vous dites dans un appel à projet, c'est on veut pouvoir en avoir des milliers très rapidement?
Ça fait partie du cahier des charges. On ne fait pas d'innovation pour l'innovation, on pourra avoir un joli prototype qui va passer à la télé ou pas d'ailleurs, en démonstration. Donc oui, c'est pris en compte du début, et c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser sans doute... dans ce type de système-là, pas quand on fait un sous-marin nucléaire, mais une plus grande liberté ou créativité aux industriels de toute taille, de telle manière qu'ils puissent avoir moins de contraintes finalement et satisfaire tous les critères qu'on leur a donnés. Si on surspécifie au départ, ben on se met nous-mêmes des contraintes auxquelles on ne sait pas répondre. Donc il faut un équilibre entre tout ça. Encore une fois, quand on fait un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il faut continuer à le faire comme on le fait aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui sont capables de le faire. Et que ça demande une telle technicité que on n'est pas, même si on est dans des nouveaux processus, des nouvelles technologies, bien évidemment, cette manière de travailler, eh bien, elle hérite de toute l'expérience et de tous les acquis qu'on a avant. Et puis on doit avoir cet équilibre aussi avec des systèmes qui sont développés très rapidement, de manière agile, qualifiable rapidement, et que l'on peut produire en grande quantité. Donc c'est tout l'équilibre et tout d'ailleurs toute la difficulté qu'on a dans cette orientation d'innovation, à pouvoir laisser de la place à l'ensemble du spectre finalement.
Et est-ce que vous sentez chez ces industriels ou ces startups une sorte de sursaut d'intérêt, mais même y compris d'entreprises qui n'étaient pas forcément sur un segment très militaire au début, et qui, enfin je veux dire, c'est un truc qu'on sent ici, partout, nous tous, un peu dans cet écosystème, qu'il y a un intérêt pour la guerre moderne, parce que, il y a, voilà, quelques mois, ce truc-là nous a frappé aux portes de l'Europe, et du coup, il y a une sorte de fascination pour cet objet-là, qui commence à s'estomper un peu, mais pas tant que ça, en vérité. Donc, est-ce que vous, qui êtes assez uniquement, en fait, à l'interface entre cette partie de la société civile, que sont ces acteurs économiques, plus ou moins privés, et l'écosystème de défense, enfin les grandes entreprises, évidemment, ça, c'est leur métier, enfin tous les grands industriels de l'armement, de toute façon, ils n'ont pas attendu. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte d'intérêt, de polarisation dans ce tissu économique, entrepreneurial, technologique, nouvelle? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'elle est durable?
Alors la réponse est oui, très, très clairement, à la fois pour les petites entreprises, mais également des grandes entreprises qui ne sont pas dans la base industrielle et technologique de défense et qui viennent nous voir. Je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour casser un mythe. On trouve finalement assez peu d'entreprises qui refusent de nous parler. On a l'impression, surtout quand ce sont des entreprises qui sont issues, par exemple, du monde académique, qui ont été conçues par des chercheurs, qui pourraient y avoir un certain... des intérêts pour la défense ou anti-militarisme. Non, les seuls... Souvent, il y a au contraire une assez grande fascination pour les sujets militaires, qui sont des sujets complexes et qui, technologiquement, sont parmi les sujets les plus exigeants. Et donc, c'est d'ailleurs ça le danger. dont on travaille une petite société, c'est de mobiliser toutes leurs forces vives, parce que ça intéresse plus un ingénieur de faire un robot capable d'aller sur tous les terrains que de faire une autre chose qui serait pourtant dans leur business model primaire. Donc oui, il y a un intérêt, il y a un surcroît d'intérêt. Vous avez dit industriel, vous avez pas dit financier. Et moi, je pense que c'est ça finalement qu'on a observé immédiatement. Il y a quelques mois, donc avant cette invasion d'Ukraine, financer une entreprise de défense, c'était presque une oxymore. Et donc les grands groupements, je pense en particulier au J4 qui avait pris l'initiative sur le sujet et qui a d'ailleurs
le permis... Le groupement des industriels et contractants de l'armée de terre.
Je suis désolé, j'en ai laissé passer une. Ouais, absolument, vous avez trois grands groupements. Mais, et donc ils avaient fait un groupe de travail sur le financement de l'industrie de défense. Il y avait un excellent rapport parlementaire qui était également sorti avec le député Thériault qui avec ses collègues, avait sorti un certain nombre de recommandations. Mais on sentait bien qu'on était...
Ça excitait pas trop les banques de financer des armements.
Quoi. C'est même pire que ça. Vous avez tout ce problème. D'ailleurs, le président est revenu lors de son discours sur la problématique de la taxonomie en Union européenne. C'est que si on laisse faire les choses, et si on avait laissé faire les choses, l'armement et la défense étaient traités comme la pornographie. C'est-à-dire que l'Europe, par exemple... où les banques ne finançaient pas des entreprises liées à l'armement parce que l'armement c'est sale. Je conçois.
Ça tue des gens.
Ça tue des gens et ça en protège d'autres, effectivement.
Je plaisante évidemment.
Oui, mais on est passé de ça tue des gens à ça nous protège. C'est assez hypocrite entre nous, hein, parce que moi j'étais en contact avec un certain nombre de capitalistes. Vous savez qu'on a deux fonds, dont un fonds qui a été créé par l'agence, ça s'appelle le fonds Innovation Défense, l'autre s'appelant Definvest, qui sont des fonds qui s'adressent à des sociétés présentant soit critiques pour la base industrielle et technologique de défense, soit duales et innovantes. Ben, on essaye en ce moment d'élargir ce fonds, donc on fait évidemment une tournée auprès d'autres fonds d'investissement, et vous avez quand même pas mal de monde qui nous disait « Ah oui, nous on veut bien prendre l'argent de la défense, mais on veut bien financer des choses, mais surtout il faut pas que ça soit dans le domaine de l'armement ». C'est très hypocrite en fait. Et on voit bien que ça a pas tenu très longtemps, hein. Vous parliez des preuves du feu, là on y est. Effectivement, le stress test, comme on dit dans le monde bancaire, qui consiste à dire « Ah, il y a une guerre, ah finalement c'est peut-être pas mal d'avoir des entreprises et un tissu industriel qui nous permettent de nous protéger », donné lieu à ce nouvel intérêt pour financer les entreprises de défense, parce que bizarrement, une guerre, c'est un marché. Donc moi, je prends ce qu'il y a. Je suis content de voir qu'il y a un nouvel intérêt pour la défense. Je suis content de voir que des financeurs, de manière sincère ou pas, sont d'accord maintenant pour financer cette industrie de défense. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, venez nous voir si vous souhaitez participer au fonds, soit en tant que co-investisseur, soit en tant que fonds de fonds, c'est-à-dire investisseur dans le fonds directement. Et évidemment, ce nouveau contexte géopolitique a changé la donne. Est-ce que c'est durable ? Je pense que oui. Mais
pourquoi ? Parce qu'avant, ils pensaient que c'était pas rentable, que c'était... Non, mais parce qu'on peut dire, les grands programmes d'armement, enfin bon, genre, quand il y a un appel d'offres, etc., c'est pas vrai que dans la défense, mais c'est... Il y a plein d'industriels qui font des propositions, qui font des prototypes, puis à la fin, il y en a quelques-uns qui remportent le lot, et pour eux, c'est très rentable, et il y en a plein pour qui ça l'est moins, et qui ont investi de plus difficilement. Donc, est-ce que le fait qu'on ait cette guerre en Ukraine a changé peut-être les perspectives de rentabilité et de dimension économique du secteur.
Une guerre, c'est un marché. Donc on voit bien que tout le monde se réarme. Donc du coup, effectivement, l'intérêt pour la défense est renouvelé. Avant, ce qu'il y avait, c'est le discours qu'on nous tenait beaucoup, et je peux le comprendre, hein. C'est le monde de la défense, c'est compliqué, parce que, bon, d'abord, c'est très onéreux en termes de système. C'est beaucoup de technologie, il faut financer la technologie avant d'avoir un retour sur investissement. C'est complexe parce que les cycles sont longs. On a bien vu dans différents marchés le programme peut s'arrêter du jour au lendemain ou bien être décalé d'un an. Décalé d'un an, pour un grand donneur d'ordre, c'est embêtant, mais c'est encore pas trop grave. Pour une petite société qui est sous-traitante de rang 3, ça peut être une catastrophe, voire la mort de la société. Et puis, il y a des contraintes à l'export, là également. Donc il y avait un certain nombre de, j'allais dire, repoussoirs réels ou fantasmés. qui sont pas les mêmes dans d'autres pays d'ailleurs. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Israël. Libertad Venture, c'est la société d'investissement en capital risque du Mossad, et elle marche très bien. InQtel, même chose aux États-Unis. Il n'y a pas de réticence, peut-être parce qu'il y a aussi un lien différent entre les entrepreneurs qui ont fait leur service ou qui sont très attachés au service de la nation, et la France qui s'est dotée d'une armée professionnelle. Il n'y a plus de service national, il n'y a pas forcément ce lien armée-nation partout, et donc le patriotisme économique, il fallait peut-être un petit peu le chercher. Et aujourd'hui, il revient pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas, oui, on a l'impression qu'on a une prise de conscience que, avant tout, l'armée, elle est là pour éviter les guerres, et que on peut pas éviter les guerres si on n'est pas d'armement. Bizarrement.
Merci beaucoup, Emmanuel Kiva.
Merci.
On peut préciser que donc ce fameux droïde dont vous nous avez parlé, donc le document détaillant les orientations de l'innovation de défense, va paraître bientôt. Ça peut permettre de se rendre compte donc des orientations de l'AID et des priorités, des évolutions de priorités que vous nous avez déjà un peu débroussaillées. Et puis il y a aussi un certain nombre d'annonces évidemment qui viendront sur différentes participations, différents investissements du fonds d'innovation de défense. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle qu'on se donne rendez-vous exceptionnellement jeudi cette semaine pour donc un commentaire en direct sur Twitter Space du défilé du 14 juillet, où on va essayer de proposer une alternative aux commentaires télé habituels avec certains amis et habitués du podcast. Donc n'oubliez pas de vous connecter si ça vous intéresse. Jeudi matin, au moment du défilé. Je vous rappelle que par ailleurs, toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout ça est toujours le bienvenu, tout comme notes et commentaires sur les différents outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud qui permettent toujours d'avoir un retour tout à fait intéressant et stimulant sur ce qu'on fait et sur ce que vous en pensez. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.